C'est un document de Bercy, du ministère des Finances. En 2025, plus de 13 000 foyers normalement soumis à ce qu'on appelle l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, donc ils payent l'impôt sur la fortune immobilière, mais qui ne payent pas d'impôt sur le revenu. Aucun IR, comme on dit, aucun impôt sur le revenu. Alors, pourquoi ? Pourquoi ces millionnaires, parce que c'est des gens qui gagnent qui ont plus d'un million d'euros de patrimoine, pourquoi ces gens-là ne payent pas d'impôt sur le revenu? Est-ce que c'est choquant? Est-ce qu'il faut y remédier? Alors, visiblement, c'est légal, hein. Il y a les niches fiscales, il y a légal, l'optimisation. Hein. Et puis, il y a aussi des gens qui parfois ne travaillent pas, en fait, qui sont des rentiers, c'est ça, Antoine?
Alors, clairement, j'entends tout de suite les gens qui disent, mais c'est honteux, etc. Mais en fait, l'impôt sur le revenu, c'est quand tu touches des revenus. Ces gens-là ne touchent pas de revenus, ils n'ont pas de salaire, ils touchent des dividendes de leur société. Les dividendes sont fiscalisés, ils payent de l'impôt sur les dividendes. Voilà, ils sont fiscalisés ailleurs. Donc tout de suite, j'entends qu'on va dire « ouais, encore pour les riches, etc. » Mais non, c'est juste qu'ils ont des revenus différents du salarié qui voit de l'impôt sur le revenu.
C'est pas ça. Moi, j'ai travaillé, on avait une table de direction avec mes parents, j'ai travaillé dans une banque de patrimoine. Donc une banque de patrimoine, messieurs, dames, nous on n'ira jamais, c'est pas pour nous. Et bizarrement, quand arrivaient les élections ou le moment des bilans, nos tables étaient complètes. Et en fait, il se passe quoi ? C'est que la loi est faite de telle manière que tu peux optimiser ton argent, mais quand t'es riche, parce que quand tu es riche, déjà t'as de l'argent à optimiser, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
C'est pauvre,
voilà. Et deuxièmement, tu as des conseillers fiscaux. En fait, le problème, techniquement, c'est pas que j'en veux pas à ces gens. Enfin, je veux dire, on serait les premiers à optimiser notre argent pour payer le moins d'impôts possible. Le seul problème, c'est que la loi, elle est faite pour pouvoir optimiser. Le problème, c'est que c'est le combat qu'on mène, nous, avec 300 pour la France, notre think tank d'entrepreneurs. C'est que il y a une charge sur les entreprises qui est énorme. Sauf qu'à partir du moment où tu dépasses un certain gain d'argent, tu te retrouves avec des équipes fiscales qui peuvent te permettre d'optimiser et de manière complètement légale. Il faudrait baisser la fiscalité des entreprises, de toutes les entreprises, mais par contre, réduire drastiquement toutes les capacités et les options d'optimisation fiscale. Ce qui pourrait permettre que tout le monde paye la même chose et que tout le monde paye à hauteur de ce qu'il est capable de donner.
De toute façon, en réalité, ça reste inaudible pour tout le monde, même si je comprends qu'il faille expliquer et qu'il paye des impôts d'une façon différente. Mais l'optimisation fiscale aussi a une zone très grise, pour ne pas dire noire, avec la fraude fiscale. C'est-à-dire que les règles sont tellement compliquées. Vous avez des avocats fiscalistes. Il y a des avocats fiscalistes, des fois, qui vous donnent même des conseils comment jouer avec la loi. C'est le principe de certains avocats.
C'est pas interdit, c'est donc que c'est autorisé.
Oui, mais bien entendu. Mais
la première chose que j'ai dit,
c'est autorisé. Mais le scandale, c'est que ce soit autorisé en réalité, parce que proportionnellement, en France et comme dans d'autres pays, plus tu gagnes de l'argent, moins tu payes d'impôts. Après, tu me diras.
C'est pas vrai.
Mais si, parce que ce que tu vas dire. En
proportion,
parce que tu vas me dire effectivement.
Et même
ce millionnaire, en termes de dividendes, de ce qui est prélevé sur ses dividendes, ça va certainement être supérieur à ce que nous gagnons tous les quatre réunis, certainement.
Mais par rapport
à ceux qui gagnent, je suis désolé, c'est inférieur proportionnellement.
Pour essayer d'y voir plus clair, je voudrais qu'on donne la parole à Emmanuel Le Chypre, qui est avec nous au 32-16, notre éditorialiste éco, parce qu'effectivement, on ne comprend pas très bien ce chiffre et ce qu'il veut dire. Emmanuel Le Chypre, bonjour, bienvenue dans Les Grandes Gueules, Emmanuel.
Bonjour à tous.
Donc, on a 13 000 Français, enfin foyers fiscaux qui sont millionnaires, comme on dit, qui ne payent pas d'impôt sur le revenu, mais qui payent l'IFI, l'impôt, par exemple, sur l'immobilier. Voilà. Comment est-ce possible ?
En fait, ce qui est compliqué dans cette affaire, c'est qu'on a quand même une palette de situations qui sont extrêmement différentes, en fait. Alors, vous avez de celui qui subit un peu cette situation jusqu'à celui qui pratique l'optimisation fiscale la plus agressive. Parmi, par exemple, ces 13 000 foyers fiscaux, vous avez, alors c'est un peu cliché, mais de dire le cultivateur de l'île de Ré, c'est-à-dire que vous avez des gens qui ont peu de revenus, mais qui ont un patrimoine finalement immobilier qui fait que voilà, ils sont assujettis à cette ISF sans payer l'impôt sur le revenu. Vous avez des salariés par exemple qui ont acheté des appartements qui ont vu leur prix multiplié par 2, par 3 en 30 ans, qui avaient des bons salaires, qui ont des pensions plus petites et qui finalement échappent aussi à ça. Donc ça, c'est vraiment la situation la plus passive que j'ai envie de dire. Après, il y a effectivement une partie des foyers, mais qui sont encore une fois des millionnaires en patrimoine, mais qui sont qui correspondent plus à de la classe moyenne supérieure, qui sont des foyers qui ont une partie des revenus qui est exonérée par tout un tas de mécanismes. Le plus connu, c'est par exemple quand vous faites des plus-values de cession sur votre résidence principale, bon ben voilà, vous êtes exonéré si ça tombe cette année-là. Il y a des dizaines de dispositifs comme ça. Puis après, il y a les dispositifs plus agressifs. Vous avez les déficits fonciers. Vous savez, quand vous investissez, par exemple, prenez quelqu'un qui a de l'argent, qui va investir, par exemple, parce que, bon, il va s'acheter un vignoble, il va refaire la cuverie, il va refaire tous les trucs. Bah, tous ces investissements que vous faites, ça peut venir en déduction de vos impôts. Donc ça, c'est plutôt une bonne affaire. Jusqu'au holding.
Oui, c'est ça. Alors, ça c'est oui, mais est-ce que c'est vraiment scandaleux?
Ah non, 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 je dis pas que c'est scandaleux. Là, moi, je vous décris la situation.
Oui, bien sûr, mais je veux dire, parce que... Oui. Pardon, mais Emmanuel, je coupe. Parce que quand on donne ce chiffre, forcément, on se dit, ah, c'est pas possible, comme tout le monde paye beaucoup d'impôts, parfois estimant en payer trop.
Tout le monde n'en paye pas, Olivier.
Et on s'aperçoit que tout d'un coup, il y en aurait 13 000 qui échapperaient à ces impôts, donc quel scandale, etc. On voit bien l'instrumentalisation politique qu'il va y avoir derrière. Alors, est-ce que c'est vraiment scandaleux? Est-ce qu'il faut corriger ça?
Non mais ça, il y a deux débats et que vous ne pourrez pas trancher. Enfin, on peut les trancher dans les faits. Il y a un débat moral et il y a un débat d'efficacité économique. La réalité, c'est que la fiscalité en France aujourd'hui, globalement sur ceux qui créent de la richesse, et c'est ça qui est important. Hein, c'est que encore une fois, moi je veux bien entendre que les Français, les ménages français sont matraqués fiscalement, mais c'est faux. C'est-à-dire si vous regardez toutes les comparaisons internationales, prenez les cotisations sociales, prenez la TVA. Prenez l'impôt sur le revenu. Je veux dire, les Français, les ménages français ne sont pas, même si l'impôt sur le revenu français est assez concentré, d'accord. Mais globalement, les ménages français qui se plaignent tout le temps ne sont pas surtaxés. Ce sont les entreprises en France qui sont surtaxées. Et une partie de ces dispositifs fiscaux vise pour essayer de maintenir quand même un outil productif efficace et une incitation à entreprendre en France. Ils ont effectivement des dispositifs qui leur permettent d'optimiser ça. Donc voilà. Et le débat que vous avez.
Mais ça crée l'emploi, c'est des dispositifs qui créent l'emploi.
Évidemment,
c'est dans les faits, pardon,
les
Emmanuel.
Mais tous
pardon,
ces gens.
Emmanuel, c'est
attends,
dans,
on va
dans
laisser les... répondre.
Non, mais juste.
Allez-y, Emmanuel.
La réalité, c'est que, comme par hasard, vous n'avez jamais eu autant de mouvements migratoires de grosses fortunes qu'en 2025, parce que vous avez pas mal de pays qui ont commencé à les taxer. On a vu ça en Norvège, on a vu ça en Angleterre. Jamais autant de grandes fortunes n'ont migré dans le monde en 2025, et notamment pour aller, par exemple, dans des pays, dans des zones comme le Moyen-Orient. Il faut assumer ce choix. Si vous voulez que ces gens qui sont des créateurs d'emplois, d'entreprises, restent en France et créent des emplois. Voilà. Mais après, on peut juger que pour des raisons morales, ils devraient payer plus d'impôts. Mais voilà. Donc, encore une fois, c'est un débat efficacité contre morale, c'est très difficile de le trancher, mais on sait que si on pénalise effectivement ces gens-là, encore une fois, vous l'avez très bien dit tous, ce sont des dispositifs légaux, et ben, il faut savoir que ça aura un impact sur l'activité économique, bien sûr.
Donc vous dites qu'ils sont efficaces sans doute économiquement, après moralement...
Le problème, c'est qu'ils sont efficaces que pour une partie des entrepreneurs.
Mais ce sont eux qui créent des richesses, pardon.
Ce sont les TPE et les PME qui font travailler...
Ça, tu peux baisser les impôts, n'empêche pas l'autre.
Mais non, mais pas du tout, parce
mais
on se verse quasiment pas de dividendes, la plupart, on se verse quasiment pas de salaire. On rêve que d'une chose,
rien n'empêche
on ne rêve que d'une chose, c'est d'augmenter nos salariés. On voudrait réinvestir. Tu crois que le plombier qui a le camion qui tourne, qui pollue tout, où il se pèle le fion l'hiver, il a pas envie un peu de changer son truc? Donc non, on ne peut pas. Donc une entreprise moyenne, une TPE-PME qui s'en sort, elle se fait matraquer en impôts, elle n'a aucun avantage à travailler en France. En plus de ça, si demain elle perd sa boîte, elle n'a pas de sécurité, elle n'a pas de chômage, elle a walou, les banques ne te suivent pas. Mais par contre, si t'es un multimillionnaire qui,
j'ai bien compris Lara,
j'ai changé de prénom, appelez-moi Lara Croft.
J'ai bien compris Lara, l'opposition que tu mets en place entre le petit entrepreneur et
je
le
mets pas
groupe.
En opposition parce que moi j'adorerais être un grand entrepreneur.
D'accord, mais c'est pas
que la fiscalité soit réduite pour tout le monde. Et qu'on interdise les options de défiscalisation.
Mais non, c'est pas en interdisant la défiscalisation que tu vas arranger la situation du petit entrepreneur.
Ben si, parce que si tu interdis la défiscalisation, mais que tu mets tout le monde à niveau pour payer à un pourcentage égal, tout le monde la même chose, et qu'on baisse la fiscalité des entreprises, et automatiquement, ça reporte sur les salaires qui vont être augmentés, parce qu'on pourra augmenter nos salaires. Quand tu regardes que je dois donner quasiment trois fois à l'État ce que je dois donner à mon salarié, c'est dégueulasse.
Un dernier mot, Antoine.
On parlait d'impôt sur le revenu. Si on revient là-dessus, moi je veux quand même rappeler des choses, c'est que 50% des Français ne payent pas d'impôt sur le revenu.
C'est honteux.
Donc aujourd'hui, cet impôt est extrêmement injuste. Il repose uniquement sur les plus riches. Rappelons également que l'impôt sur le revenu est un impôt progressif. C'est-à-dire que plus tu montes en revenu, plus tu es fiscalisé, c'est-à-dire que le pourcentage de fiscalisation de l'euro marginal gagné est plus important, jusqu'à 45%. C'est-à-dire que au-delà d'une certaine tranche, 1 euro sur 2 que tu gagnes, tu vas le donner en impôt sur le revenu.
Parce qu'une entreprise, une TPE-PME, elle est déjà taxée à 45%.
Les patrons de PME-TPE sont aussi choqués que nous.
Et je vous dis, je vous rappelle quelques chiffres, 30% de l'impôt sur le revenu est payé par 1% des plus riches.
Oui, ça c'est vrai, c'est très concentré.
10% des plus riches payent 60 à 70% de l'impôt sur le revenu. Donc en réalité, l'impôt sur le revenu tabasse déjà les gens qui ont beaucoup de revenus.
Merci Emmanuel Lechypre pour ces explications. Merci à tous.